les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, toute l'équipe de la librairie francophone vous souhaite une très belle année 2021. Pour la première émission de l'année, la dernière de cette période des fêtes, on vous emmène au soleil, dans les vignes suisses, dans le monde des odeurs et des parfums, dans l'univers de George Orwell et en balade avec un célèbre cow-boy. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Nous ferons le portrait de George Orwell, qui est entré dans la Pléiade fin 2020. Après Kessel la semaine dernière, vous allez apprendre des choses sur la vie de cet auteur britannique qui a vécu en France. Un volume de la Pléiade rassemble et résume bien son œuvre. On en parle avec Véronique Béguin et avec l'auteur culte de la BD de science-fiction, Pierre Christin. Pour clôturer la célébration des 15 ans de l'émission, nous ferons une balade sur la Tour Eiffel avec Lucky Luke et ses nouveaux auteurs Jules et HD. Nous parlerons des parfums avec le maître parfumeur Dominique Ropion et avec l'écrivain Gaston-Paul Effa. Et puis nous irons dans les vignes du Lavaux en Suisse avec l'auteur Daniel Deroulet. Et aujourd'hui, tout au long de ce programme, les libraires vous parleront des livres qui les ont marqués en 2020 et ils raconteront aussi des anecdotes étonnantes vécues lors de leur vie de libraire et c'est parfois, je vous préviens, très très surprenant. Pour la Belgique, c'est Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles. J'en rigole avant. Bonjour Déborah.
Ne divulgâchez pas mon anecdote, Emmanuel.
Bonne année, Emmanuel. On a quitté 2020. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonne année à vous.
Bonne année à vous.
Bonne année à Josiane, bonne année à Mathieu, comme ça c'est fait. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonne année Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie du Square à Montréal et il y a un livre qui vous a particulièrement plu en 2020, avant qu'on soit vraiment en 2021, va-t-on dire. Quel est le livre qui vous a marqué l'année dernière donc?
Parmi les parutions québécoises de l'année 2020, moi ma lecture absolue c'est Le Foudroyant, Petite Cendre ou La Capture, un roman qui est en soi un prolongement du cycle Soif qu'on croyait terminé de l'écrivaine Marie-Claire Blais. C'est un roman où on entend encore en fait cette mère M.E.R. qui est très présente dans l'œuvre de l'autrice. C'est le roman de l'Amérique qui illustre autant l'humanité à fleur de peau que la violence et les paradoxes et bon, son immense talent et sa clarté de regard sur le continent américain.
Marie-Claire Blais, qui est une grande auteure québécoise. On parle même d'elle régulièrement pour le prix Nobel de littérature. Vous êtes au courant de ça?
Oui, tout à fait.
Ouais, bon, peut-être un jour. Hein. Donc, Petite Cendre ou La Capture, c'est aux éditions Boréal. Retenez ce nom si vous ne le connaissez pas, Marie-Claire Blais. Merci beaucoup, Josiane. Mathieu Colombe représente la France dans la librairie Goulard à Aix-en-Provence. Bonjour, Mathieu.
Et bonjour Emmanuel, bonne année.
Bonne année à vous, les 13 desserts, c'est fini ça, hein, ça y est, c'est passé.
Oui, ça
ou
y est,
ça continue
fini,
en janvier. Non.
Non, non, là, faut qu'on arrête, là, sinon on va mourir. Donc,
Quel est le livre de 2020 pour vous, Mathieu?
Eh bien, en fait, celui qui nous a vraiment marqué avec mon équipe, c'est Héritage de Miguel Bonnefoy. Alors d'abord parce qu'il est très généreux, hein, sur 200 pages, on va voir un roman fleuve, on part sur 4 générations, 3 ou 4 générations, donc il se passe beaucoup de choses, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On part au Chili, on voit du pays, ça parle de vin, ça parle un peu de guerre parce que ça se passe au début du siècle. C'est absolument magnifique, il y a même des phrases qu'on a envie d'apprendre par cœur, tellement c'est beau. Pour moi, ça a été la lecture de l'année.
Ah oui, d'accord. Le nouveau livre de Miguel Bonnefoy, Héritage aux éditions Rivage. C'est plutôt inattendu, tiens. Merci pour ce conseil, en tout cas Mathieu. Et votre anecdote est incroyable. Ce sera à la fin de l'émission. Je ne peux pas tout dire, mais je sais que vous avez eu un grand vertige.
Ah oui, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Il me tarde de la dire.
À tout à l'heure. Vous avez peut-être reçu un parfum en cadeau de Noël. C'est un peu le marronnier des cadeaux de Noël. Je vous propose d'écouter un club francophone sur les parfums, justement, réalisés pour la librairie francophone estivale. Librairie estivale qui revient d'ailleurs l'été prochain, je vous l'annonce en ce début d'année. C'est le club francophone des parfums aujourd'hui avec Gaston-Paul Effa et Dominique Ropion. L'un est un écrivain d'origine du Cameroun que l'on suit depuis ses débuts dans la librairie francophone. L'autre est un nez à la réputation internationale, un maître parfumeur, Dune de Dior, Jungle de Kenzo, Amor Amor de Cacharel, La Nuit de l'Homme de Saint-Laurent, Alien de Mugler, La Vie est Belle de Lancôme ou encore le dernier parfum de Mercedes-Benz. C'est lui, il y a 7 pages de référence
référence. Vous en avez forcément porté un jour. Bonjour Dominique Ropion.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, je vous remercie.
C'était facile Mercedes? Plus facile que Lancôme ou que
Saint-Laurent? C'était un peu plus facile, c'est vrai.
C'est vrai. Bon, comment choisit-on son parfum? Tiens, nos préférences sont-elles ancrées en nous depuis l'enfance?
Bah, ça, c'est une bonne question à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre. Je dirais plutôt, je penserais que oui. Maintenant, je pense que c'est une réponse qui est très personnelle. Et c'est très... Chacun a ses propres, d'abord, ses propres références.
Ouais, ses propres souvenirs.
Ses propres souvenirs. Et puis, n'a pas certainement les mêmes goûts, les mêmes inclinations en fonction de son âge. Ouais. Donc, alors, ça dépend des époques.
Vous avez publié Aphorisme d'un parfumeur, un livre dans lequel vous dites en introduction qu'il y a toujours un parfum ou des odeurs associées à un événement, à un lieu ou à une rencontre. Ouais. C'est comme un aide-mémoire, dites-vous.
Oui, c'est vrai que... Et ça peut remonter aussi à la plus tendre enfance. On peut avoir des souvenirs accrochés, comme vous le dites, à un jouet, par exemple, hein, ou ouais, une chose très simple, ou de la nourriture, ou à des bonbons, enfin des choses de la vie courante, en fait. Et vous les associez aussi à un moment donné.
Bonjour Gaston Poléphat.
Bonjour.
Vous avez publié Les Parfums élémentaires aux éditions Gallimard avec Isabelle Laurent. C'est très étonnant de lire ces deux livres quasi en même temps car ils se répondent. On va y venir, mais dans l'un de vos textes, Gaston Paul, vous évoquez votre grand-père qui vous disait que des cinq sens, l'odorat est le plus dangereux car il pousse à la connaissance du monde.
Tout à fait, parce que le nez a une position capitale. Lorsque vous examinez un visage, vous avez les yeux qui sont au-dessus. C'est la sagesse qui nous tourne vers le ciel, la part divine. La bouche, quant à elle, nous incline à la terre. Elle nous parle que du bas, du plus bas. Le nez est intermédiaire et il parvient à spiritualiser un peu le bas pour nous donner une part du haut et en même temps nous ramène du haut vers le bas. Et c'est cette part aussi que j'admire chez un nez parce que le nez est toujours celui qui est dans la rectification perpétuelle de la matière, de l'ordinaire.
Le nez, vous dites le parfumeur.
Le parfumeur. Le maître parfumeur.
Ouais, qu'on appelle nez, en général.
Le nez est doté de ces deux facultés.
Alors Dominique Ropion, dans votre livre, il y a deux notions essentielles, la peau et l'animalité. Ouais. On aiguise notre odorat avec les odeurs de peau dès l'enfance et dès l'adolescence surtout. Ce que vous allez vivre d'ailleurs, Gaston Poléphat, avec celle que vous nommez la négresse. Le jour où vous l'embrassez, au Cameroun, il y a des choses qui changent en vous.
Il semble que c'est Baudelaire qui dit cela. Lorsque je sens tes parfums, il me semble que je mange des souvenirs. Parce que le parfum de l'autre nous révèle déjà à nous-mêmes et à l'autre. Je pense véritablement que s'il y a quelque chose qu'on appelle l'ADN, plutôt que de parler de l'empreinte digitale, on devrait parler de l'odeur de l'être. Chacun a une odeur particulière et cette odeur nous ouvre au monde et à nous-mêmes.
De la tête aux pieds, les odeurs de peau ne manquent pas. Toutes sortes de sentiments différents que l'on retrouve dans la nature. Ça, c'est ce que vous écrivez, Dominique Ropion. Tout est dans la nature.
Oui, tout est dans la nature, tout est dans les odeurs corporelles, quelles qu'elles soient, en fait. Ouais. Aussi bien les choses qu'on n'ose pas nommer, parce que ça ne fait pas, entre guillemets.
Qu'est-ce qu'on n'ose pas nommer?
Tout ce qui est, que ce soit l'urine, que ce soit toutes les sécrétions, que ce soit les odeurs sexuelles, toutes ces choses, et qui sont pourtant notre quotidien, en fait. Et ce sont des choses qui sont très intimes, mais qui sont aussi partagées par l'ensemble des êtres humains. Donc, donc chacun a ses références-là, ses propres références, mais elles sont quand même communes.
C'est à partir de là qu'on construit un parfum? À partir de ces odeurs-là aussi?
Bien sûr. Dans la construction d'un parfum, il rentre dedans des éléments qui sont d'origine animale, qui peuvent être d'origine animale, qui le sont de moins en moins, à vrai dire. Mais les odeurs le sont, parce que on a eu l'habitude d'utiliser, par le passé, des extraits de notre animal, ce qu'on fait malheureusement de moins en moins, certaines sont totalement interdites, comme le musc, par exemple. Mais on a su recréer ces odeurs, reconstituer.
Qu'est-ce que c'est le musc alors, justement?
Le musc, ça vient d'un bouquetin qui vit au Tibet, dont certaines glandes contiennent cette substance, donc qu'on extrait, et on obtient une odeur, enfin un extrait de ce musc qu'on va utiliser en parfumerie, ou qu'on utilisait en parfumerie.
Alors le castoreum, ça existe,
c'est
il
pareil,
en parle Gaston Poléphat dans son livre.
Oui, très bien,
c'est
d'ailleurs.
Une glande située entre l'anus et les parties génitales du castor du Canada.
Exactement. Alors, c'est pas des glandes sexuelles directes, mais enfin, ça permettait au castor d'émettre une odeur très puissante.
Et voilà. Ça, on l'utilise.
Et on l'utilise.
On arrive à l'extraire.
On extrait, oui.
Alors, on parlait de l'ambre aussi. Quand l'ambre on parle d'une odeur ambrée, voilà. L'ambre, oui. Qui voilà. Est générale dans les parfums,
exactement.
On en parle souvent.
En parle
et l'ambre, souvent. C'est une déjection de cachalot.
Exactement. Oui, oui, oui. En fait, c'est la sécrétion pathologique d'un cachalot.
Ouais. Alors, vous dites aussi, notre animalité, on la gomme. Nos odeurs de corps sont recouvertes, parfumées par des essences qui cherchent paradoxalement à les reproduire. Les notes charnelles sont la quête du Graal pour un parfumeur. Alors, à quoi ça sert de se parfumer ?
D'abord, je pense que la notion de séduction est une chose qui colle au parfum. Ça, c'est une chose. Après, oui, il y a à la fois montrer ce que l'on est, c'est un appel, c'est... et puis il y a un choix esthétique aussi, hein, qui est fait en fonction de ses propres goûts.
En fait, on change son odeur, c'est juste
on
ça.
On change son odeur, mais aussi, je pense aussi, un choix d'une construction artistique aussi. Hein.
Ouais.
Ouais, je Gaston trouve que les grands parfums, c'est les odeurs naturelles un peu érotisées. Vous savez, lorsque vous êtes en mauvais terme avec quelqu'un, vous ne supportez pas son parfum.
Ouais, c'est vrai.
Lorsqu'un couple ne va plus bien, la première chose qu'on déteste chez l'autre, c'est son odeur.
Ouais.
Et lorsqu'on accepte l'autre, on l'accepte d'abord par son odeur, comme l'enfant reconnaît sa mère, d'abord par le nez. Et ce qui fait que l'odeur acceptée devient quasiment un parfum. Même le purin, si vous sentez véritablement le purin, il y a quelque chose de subtil qui se dégage lorsque vous l'acceptez.
Ouais,
donc il y a d'abord un apaisement intérieur. L'odeur nous rappelle qu'il faut d'abord harmoniser l'intérieur de l'être.
Ouais.
Et alors, on ne parle même plus d'odeur, on parle de parfum.
Et c'est vrai qu'on est compatible avec l'autre à partir du moment où on a accepté ou qu'on aime son odeur.
Comme les animaux.
C'est vrai. Que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, quelle que soit la relation sexuelle ou pas, ça marche comme ça.
Ah oui. Parce que c'est très égoïste, hein, le parfum.
On parle aussi
c'est
pas
soi.
Sûr.
Une,
ah,
d'abord, une part de soi et qui va nous ouvrir ensuite à l'autre.
Ah, c'est l'acceptation de l'autre.
L'acceptation
aussi.
De l'autre.
Ouais, pas si égoïste alors.
Aussi. Ouais. Si on ne s'accepte pas, on n'accepte pas l'autre, hein, vous savez.
Ouais, c'est vrai. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Aphorisme d'un parfumeur de Dominique Ropion, c'est paru chez Né Éditeur. Et puis Gaston Poléfa avec Isabelle Laurent, Les Parfums élémentaires. Aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci, merci Emmanuel.
Et pour cette première émission de l'année, tout au long de l'émission, les libraires vous racontent des histoires étonnantes qu'ils ont vécues dans leur librairie. C'est notre petit cadeau de début d'année. On commence par une histoire belge à tous les sens du terme. Déborah Damblon.
Mais oui, Emmanuel, une histoire surréaliste.
Oui.
Voilà. Donc, un soir, à la fermeture du magasin, mon collègue et moi, on discute gentiment sur le trottoir. Et puis, comme on a très confiance dans les capacités d'action respectives l'un de l'autre, chacun pense que le collègue a fermé la porte à clé. Bref, on part sans avoir verrouillé et sans avoir mis l'alarme. Et le lendemain, quand j'arrive, qu'est-ce qu'il y a dans le magasin tout noir ? Quelques gentils clients qui sont entrés et en voyant qu'il n'y avait personne, ils ont monté la garde et ils ne regardaient même pas les livres. Il y en a même un qui, très gêné, m'a dit qu'une dame était passée et qu'elle avait emporté un livre et qu'elle avait dit qu'elle reviendrait payer. Mais je vous avoue qu'à son air dubitatif, j'ai bien vu qu'il n'y comptait pas. Vous savez ce qui s'est passé ? À la fermeture, la dite dame, elle est arrivée, elle a payé son livre.
Ah
donc,
oui.
C'est bien la preuve que, absurde, d'accord, mais il y a un ange gardien belge pour les libraires tête de linotte. Hein.
Mais alors, ils sont entrés quand dans la librairie, les clients ?
Bel matin, ils ont poussé la porte.
Ah, le matin tôt ? Ah d'accord, avant que vous arriviez. Vous arrivez à quelle heure ?
Ah ben ils sont plus réveillés que nous, je sais pas, avant 10h en tout
d'accord,
cas.
D'accord, d'accord, d'accord. Bon ben écoutez, mais en tout cas ils sont honnêtes, c'est déjà ça.
Ils sont merveilleux Emmanuel, merveilleux.
Bon, merci pour cette histoire Déborah, Josiane, Dominique et Mathieu, ce sera tout à l'heure. À suivre notre séquence autour de George Orwell à l'occasion de son entrée dans la Pléiade fin 2020. Ce sera après le chanteur Zed Youn Pavarotti dans la librairie francophone avec un nouvel extrait de son premier album magistral que l'on vous conseille.
Légende, donne-moi tout ce que je veux, dame. J'suis dans le couloir, au fond c'est que du feu. Des morts à ma table, des gens qui vivent heureux. J'achète là les merdes, car je connais leurs yeux. J'suis sur un ballon, j'aime jeter les glaçons sur les gens du club, car ils ont passé l'heure. Tant à m'ignorer, j'me suis amélioré. J'voulais être comme eux, maintenant j'veux les acheter. J'suis dans le fleuve. J'pensais être si bien, mais maintenant c'est froid. J'sens plus la cigarette au bout des doigts. Je veux qu'un bien silencieux, pas de cinéma, pas de la la land. La 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 la, pas de la la land. On est seul au monde, perdu dans un idéal. Pas de la la land, moi je veux rien qui fait les rêves, mais je mourrais si je l'ai pas. Mon la la land. La 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 la, pas de la la land. On est seul au monde, perdu dans un idéal. Pas de la la land, moi je veux rien qui fait les rêves. Fourmilier, les temps ne veulent qu'un ventre. Et j'ai de la place au max, gourmand comme pétrolier. Excuse, faudrait signer là où y'a pas la marge. Il est très chouette le bateau, mais maintenant ça dégage. Yeah. Bigger than moi, y'a pas une heure. J'ai les étages et la lumière. Suis ses copains dans la Viper. Oh. C'est pour ton nice, faut que rouler. Je veux des requins dans la cour et des dauphins sur le palier. Des éléphants dans ma tour. D'ivoire, y'aura des loups dans la forêt. C'est tellement gris devant le beau miroir. Le grand vautour va l'adorer. J'suis dans les fleurs, j'pensais être si bien, mais maintenant c'est froid. Je sens plus la cigarette au bout des doigts. Je veux qu'un silencieux, pas de cinéma, pas de la la land. La 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 la, pas de la la land. On est seul au monde, perdu dans un idéal. Pas de la la land, moi je veux rien qui fait les rêves, mais je mourrais si je l'ai pas. Mon la la land. La 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 la, pas de la la land. On est seul au monde, perdu dans un idéal. C'est si bien, mais maintenant c'est froid. Je sens plus la cigarette au bout des doigts. Je veux qu'un silencieux, pas de cinéma, pas de la la la, mon la la la.
C'était Zed Youn Pavarotti avec La La Land dans la librairie francophone.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
En cette période de fête, on vous propose deux grands entretiens autour de deux grands auteurs publiés dans la Pléiade en 2020. La semaine dernière, nous parlions de Joseph Kessel avec notamment Jean-Christophe Ruffin. Et aujourd'hui, place à George Orwell. Bonjour Véronique Béguin.
Bonjour.
George Orwell, célèbre pour 1984, dont on a beaucoup parlé pendant la crise du Covid, entre dans la Pléiade avec un volume qui contient ce fameux roman. Mais Orwell, ce n'est pas que ça. Il a écrit un premier roman en 1933 après une expérience dans les bas-fonds de Londres et surtout une longue période passée à Paris en France.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup de 1984, de la ferme des animaux, mais il y a tout un pan de l'œuvre d'Orwell qui, tout en étant connu en fait du public anglophone, n'est pas forcément connu du public francophone. Et notamment son premier livre, il avait publié des articles auparavant, mais son premier livre, son premier ouvrage, c'est « Dans la dèche à Paris et à Londres » qui paraît en 33. Et qui fait suite effectivement à une expérience de plusieurs semaines à Paris où il fréquente les sous-sols des grands hôtels, notamment où il joue les plongeurs, puisqu'il se retrouve en fait pour diverses raisons sans argent et décide de rester à Paris.
Ouais, c'est ça.
Et de prendre des emplois de plongeur, notamment dans un grand hôtel, la rue de Rivoli, et puis dans un autre, dans un restaurant qu'il évoque par ailleurs.
Oui, alors on est à la fin des années 20, et dans la notice qui décrypte son récit, vous dites qu'il voulait écrire deux romans à ce moment-là, et apprendre le français. Alors il est dans un hôtel, comme ça, dans le quartier Mouffetard, il n'arrive pas à vendre ses articles, il n'a pas d'argent, mais il reste, parce qu'en Angleterre, il y a 2,5 millions de chômeurs. Vous dites alors qu'il est condamné un peu à vivre comme les Parisiens les plus pauvres.
Oui, finalement, il était venu à Paris pour apprendre le français et puis pour écrire des romans. Il ne reste en fait rien de ces deux romans auxquels il est fait allusion en quelques endroits. Et alors, il veut apprendre le français, notamment parce qu'il a un grand-père français du côté maternel. Et puis, il se trouve que sa tante, une de ses tantes, vit également à Paris, mais il n'en est pas question dans le livre. Donc, ce dont il est question, effectivement, c'est ses expériences aux côtés de gens pauvres, notamment comme plongeur dans de grands hôtels.
Oui.
Puisque son idée, dans le fond, et c'est dans le prolongement d'une expérience qu'il a fait antérieurement en Angleterre, son idée, c'est d'expier l'expérience coloniale. Parce qu'il y a cette dimension-là dans ce premier travail d'Orwell. Il s'était trouvé en Birmanie au service de l'Empire, bien sûr, et il en était rentré finalement avec une très mauvaise conscience, un énorme sentiment de culpabilité. Et donc, dans l'expérience qu'il mène à Paris, il y a une forme d'expiation.
Oui, c'est ça. Il a fait de nombreux voyages. Un peu comme Kessel, d'ailleurs, dont on parlait la semaine dernière. Il a utilisé comme ça ses voyages, son expérience, son exploration sociale pour ses livres. Alors, vous notez aussi la francophobie du narrateur dans ce livre, dans La Dèche à Paris et à Londres. Francophobie du narrateur, il dit, la plupart des Français sont de mauvaise humeur tant qu'ils n'ont pas avalé leur déjeuner. Bon, ça, c'est vrai. Mais il y a plein de critiques aussi sur les Français.
Il fait un certain nombre de remarques sur les Français qui sont assez frappantes, hein, qui évidemment sautent aux yeux du lecteur français notamment. Par exemple, il parle du rond de cuir français typique, qu'il décrit comme un petit bonhomme désagréable, mêle tout, à l'air aigri. Il nous dit ailleurs que l'esprit français se délecte de tant de cuistrerie. Il décrit aussi l'affreuse trogne des Français qui empestent l'ail et la vinasse. Donc, effectivement, le livre n'est pas dénué de quelques pics francophobes. Bon, il faut savoir quand même que la francophobie, c'est un sport britannique. Hein.
Ouais,
ça n'est François Orwell.
C'est vrai. Bon, ce n'est pas du tout un petit bonhomme désagréable. On va rejoindre un auteur culte dans la BD de science-fiction, le créateur de Valérian avec Mézières. Il est aussi romancier. Bonjour Pierre Christin.
Bonjour.
Comment allez-vous Pierre?
Bien. Voilà, je suis dans ma maison de campagne et c'est pas mal du tout.
Bon, parfait. Restez au chaud. Vous avez publié en 2019 une biographie en BD d'Orwell. Vous incitez le lecteur à replonger comme ça dans son œuvre, tout en faisant appel à une certaine vigilance morale, un peu comme Orwell l'a fait avec 1984.
Ben, Orwell, c'est un romancier un peu particulier. Dans ma jeunesse, par exemple, en France, il était effectivement fort peu connu. On avait d'autres écrivains anglais qui étaient des grands stylistes, tout ça. Orwell, c'est un écrivain politique, c'est comme ça qu'il se qualifiera plus tard. Et il y a un côté un peu sec dans ce qu'il écrit, parce que les déterminants sont pas tellement psychologiques, romanesques, c'est des déterminants presque toujours sociologiques. Et c'est pour ça que, par exemple, la misère ou le colonialisme sont des sujets qui s'imposent à lui, quitte à le faire souffrir. Il y a un côté un peu christique hein, aussi chez Orwell.
Ouais.
En même temps qu'il fait ça, il invente, il n'y a pas que lui, il y a Jack London, etc., une espèce de journalisme d'immersion où il peut rester pendant des jours et des jours. Il le fera aussi en Angleterre, sur le quai de Wigan et d'autres, au milieu de la pauvreté.
Mais alors Pierre Christin, pourquoi quand vous publiez Les Phalanges de l'Ordre Noir avec Enki Bilal, vous vous inspirez de l'œuvre d'Orwell? Pourquoi autant de fascination pour Orwell?
Bon, ça vient de ma jeunesse où j'arrivais pas à être communiste en quelque sorte. Il y avait vraiment quelque chose qui me gênait jusqu'au jour où j'ai lu Orwell et où, bah, évidemment, Big Brother, la vérité c'est le mensonge et tout l'inverse, disant, bah, il l'a compris, lui, il a compris ce qui va pas. C'est pas seulement des critiques de droite, un peu ridicules et méchantes, souhaitant que le communisme échoue. Non. Orwell, c'est de dire, c'est un château de cartes. C'est rien. C'est des illusions. Alors ça m'a beaucoup frappé, et même quand j'ai fait Valérian, par exemple, si vous vous souvenez des premières histoires de Valérian, il y a une catastrophe qui arrive, alors non pas en 1984, parce que je rêverais trop Orwell pour ça, mais en 1986.
Oui,
c'est-à-dire que, voilà, à l'origine de Valérian, que j'ai fait avec Jean-Claude Mézières, bah, il y a déjà Orwell. Et évidemment, bien des années plus tard, avec ce que je vais faire avec Bilal, sur la dégénérescence de l'Empire communiste, on est en plein dedans. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et puis un regard sur la société anglaise notamment, Véronique Béguin, avec le quai de Wigan, il a permis à beaucoup de gens de prendre conscience de la misère ouvrière en Angleterre.
Oui, alors je me permets juste de rectifier sur le titre, puisque en fait, dans le volume Pléiade, nous lui avons donné un autre titre.
Oui, au bout du chemin.
Pour être plus fidèle au sens de l'original, nous l'avons appelé, intitulé « Wigan Pier au bout du chemin ». En fait, c'est une enquête qui lui avait été commandée par son éditeur, qu'il a en partie détournée un peu, puisque dans le deuxième volet, il va dresser une critique assez féroce, non pas du socialisme, mais des socialistes. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs son esprit caustique. C'est quelqu'un qui est très habile à dresser des caricatures.
Oui, il le fait l'air de rien d'ailleurs.
Oui, c'est-à-dire que en réalité, son projet, c'est de dire, bon, on est à la fin des années 30, il voit se profiler effectivement la montée du fascisme en Europe, et son objectif, c'est dans le fond de remobiliser les troupes autour du socialisme. Mais ce qu'il dit, c'est ce qui nuit au socialisme, à l'adhésion pleine au socialisme, ce sont les socialistes eux-mêmes. Et à la faveur de ce constat, il dresse un portrait proprement caricatural et extrêmement sévère des socialistes qu'il voit autour de lui. Donc effectivement, ça donne lieu à des choses très caricaturales.
Il y a aussi chez Orwell un virilisme qui, dites-vous, dans la Pléiade, traverse son œuvre, et une certaine homophobie aussi. Vous racontez qu'il met sur le même plan, à un moment d'ailleurs, le viol et l'homosexualité. Il parle de tapette dans ses écrits. Enfin, c'est pas très clair, en tout cas.
C'est vrai qu'on a beaucoup fait l'éloge d'Orwell. Il y a une tendance hagiographique dans le rapport d'un certain nombre de critiques et biographes à Orwell, mais je pense que ça n'empêche pas une certaine lucidité sur des éléments qui apparaissent dans les textes, la francophobie dans certains cas, l'antisémitisme aussi par endroits. Il y a des caricatures de juifs dans la Dèche à Paris et à Londres qui retiennent vraiment l'attention. Ouais. Et puis effectivement, ce virilisme, cette homophobie qui émerge ici et là, je ne peux pas dire que l'homophobie traverse l'ensemble de l'œuvre, ça n'est pas un élément déterminant, bien sûr, ça ne doit pas masquer...
Ça apparaît à un moment.
Effectivement, ça affleure et effectivement, ça donne lieu à des remarques assez désagréables. Bon, il règle ses comptes aussi avec une partie du milieu littéraire de l'époque britannique. Ouais.
Hein. Alors, la virilité, il dit des choses quand même intéressantes, parce que il raconte aussi que la virilité en prend un coup quand on est pauvre et vagabond. On le voit d'ailleurs dans la bande dessinée de Pierre Christin. Pierre, vous notez que selon lui, le chômage a une influence désastreuse, il le raconte, sur les hommes encore plus que sur les femmes.
Oui, parce que ça les atteint au cœur de cette virilité. Un homme qui n'a pas de travail, qui est un homme qui n'a rien. Alors que moi, je trouve cette question de l'anti-homosexualité d'Orwell peut-être un peu exagérée. C'est quelque chose qui est sorti relativement récemment.
Ouais.
Et il faut reprendre le contexte de l'époque. Hein, c'est comme quand on lit Simenon. Parce qu'il y a du Simenon chez Orwell.
Oui, enfin, quelle que soit l'époque, Pierre, si je peux me permettre, la misogynie et l'homosexualité, quelle que soit l'époque...
Ah. Oui, bien sûr, mais à l'époque, c'est la misère humaine qui le fait sortir de ses gonds. Mm. C'est pas les injustices sexuelles, etc. Non, c'est les injustices sociales. Il y a des choses où il est en retard sur l'époque, si on veut, et d'autres où il est en avance.
Oui, il est en avance,
Voilà, mais on ne connaissait pas encore le mot écologie. Oh. Mais il va cultiver son jardin dans une île perdue au large de l'Écosse. Ça, c'est, si j'ose dire, moderne.
Bon, en tout cas, que ce soit avec 1984, Wigan ou La Dèche à Paris et à Londres, George Orwell explore la stabilité de l'homme et les causes de son instabilité. C'est un peu ça, en fait, Véronique Béguin.
Oui, alors, je dirais, en fait, que ce qui l'intéresse aussi, c'est de travailler sur la question de la différence sociale et de l'écart entre les riches et les pauvres. C'est-à-dire qu'il me semble que ce qui explique et ce qui rassemble c'est les deux livres que j'ai retraduits pour la collection de la bibliothèque La Pléiade, c'est l'idée qu'en se mêlant aux pauvres, que ce soit dans le nord de l'Angleterre ou à Paris, il va pouvoir montrer dans le fond que l'écart entre les classes sociales n'est pas un gouffre infranchissable. Son objectif, c'est peut-être de mettre en lumière une forme de perméabilité des frontières sociales à travers sa propre expérience, puisque c'est quand même quelqu'un d'extrêmement pragmatique, c'est un homme de terrain, et tout ce qu'il écrit découle d'expériences de terrain. C'est vrai aussi pour ses écrits sur la guerre d'Espagne. De ce fait, il y a une expérience qui lui permet, dans le fond, d'asseoir la légitimité de son propos.
Ouais. Orwell qui disait « Quand je décide d'écrire un livre, je ne me dis pas « je vais produire une œuvre d'art ». J'écris ce livre parce qu'il y a un mensonge que je veux dénoncer. » C'est un peu ça toute l'œuvre d'Orwell. Merci beaucoup Véronique Béguin.
Merci à vous.
Merci, à très bientôt. Pierre Christin, merci beaucoup aussi. Bon séjour dans votre maison.
Merci.
À bientôt. L'œuvre de George Orwell est donc parue en 2020 dans la Pléiade en un volume. Il n'y a pas toute l'œuvre, mais la sélection essentielle. Il y aura d'ailleurs d'autres volumes à paraître, Véronique ?
Ah, pas à ma connaissance, mais je ne suis pas dans le secret des dieux.
Bon, à suivre donc. Merci à vous. Notre libraire Josiane Letourneau a une anecdote à vous raconter autour de George Orwell. Et vous allez voir qu'au Canada, on ne fume pas que des cigarettes depuis que d'autres plantes sont légales. Josiane.
Mais écoutez, cette anecdote, elle date du temps où je travaillais chez Olivier Ré. On avait une table du choix des libraires. Et il y avait une seule règle vraiment stricte, c'est de ne pas mettre de livres qui étaient parus depuis plus de 6 mois. Alors, un jour, on s'est retrouvé dans la situation où on voyait constamment revenir sur la table le livre « La ferme des animaux » de George Orwell,
ah oui.
qui m'a fait surnommer cet épisode « La malédiction de George Orwell », parce que, bon, évidemment, on allait ranger le livre à sa place et il revenait constamment sur la table.
Ah oui.
Alors qu'on n'a jamais été capable de déterminer qui ou quoi était responsable de cette chose. Alors, on s'est dit, si on ne peut pas les battre, on va les rejoindre. On a fini par commander une pile de la ferme des animaux qu'on a laissée constamment sur cette table-là, mais on n'a jamais été capable de savoir qui ou quoi, j'insiste, parce que c'était peut-être un fantôme qui était responsable de tout ça.
Bien sûr. Et je rappelle qu'à l'époque, le cannabis n'était pas légal au Canada, à Montréal.
Ah ben, tout est possible. Tout est possible, évidemment.
Bon, merci pour cette histoire. Merci à vous. Dominique Bressou, en Suisse, une autre anecdote, mais pas de George Orwell.
Ah non, non, pas du tout. Non, moi, c'était plutôt une anecdote de cliente, quoi. J'envoie un mail un jour à, mettons, Suzette Tartampion, pour lui annoncer l'arrivée d'un bouquin qu'elle avait réservé. Elle arrive et elle me dit « J'ai bien reçu votre message, mais je n'ai jamais commandé ce titre. » Et interloqué, je lui dis « Mais vous n'êtes pas Suzette Tartampion ?» Et elle de me répondre « Non, ça c'est la nouvelle femme de mon ex-mari. Moi, je veux juste savoir ce qu'elle lit. » cette. Et là, je ne peux pas vous dire, parce que je ne peux pas dire à la radio le mot qu'elle a dit. Depuis, je fais extrêmement attention à bien écrire le nom et le prénom pour les commandes, pas seulement le nom de famille.
Oh là là. Bon, merci Dominique. La suite tout à l'heure avec Mathieu. Dans un instant, la suite aussi de nos 15 ans avec un reportage dans les vignes du Lavaux en Suisse et une déambulation sur le thème de Lucky Luke. Ce sera après le nouveau titre du réunionnais David Sicard dans la librairie francophone.
Depuis grand matin, poids qu'a fauvé, t'aurais bien en grain, les dans la vanne poterie, et l'eau qu'arrive pour moi fait là, vive l'is en un autre côté, pour ça même fomi ça va, la case il l'a demandé. Allô, bons épices, ça qui trouve pis partout, ça qui fait au doigt au lys, rendre spécial au goût, ça même elle a besoin. Donne le bon goût créole, ça qui reconnaît bien.
David Sicard avec la Casilo, extrait de son nouvel album. On part en Suisse tout de suite dans les vignes. Un petit reportage qui va vous faire voyager.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et nous sommes dans les vignes du Lavaux en Suisse, sur les hauteurs de Vevey, avec un célèbre auteur helvétique qui n'a pas la langue dans sa poche. Bonjour Daniel de Roulet.
Bonjour.
Comment allez-vous Daniel?
Oh ben ça va, surtout quand il fait beau comme ça, comme aujourd'hui, fantastique.
Alors, on a un panorama incroyable devant nous, une véritable carte postale. On est au milieu des vignes du Lavaux. Décrivez-nous Daniel ce que vous voyez là.
Donc c'est des vignes qui sont très anciennes et très en pente. Et c'est un endroit qui normalement serait sacrifié à l'urbanisation, mais grâce à la lutte de journalistes très pugnaces, il y a eu une série d'interventions au niveau politique qui ont fait qu'on peut garder ce paysage, qui s'appelle le Lavaux, qui est maintenant au patrimoine mondial de l'humanité. Et ce sont des vignes qui descendent depuis le bord de la forêt, depuis la fin de la montée, jusque tout en bas dans le lac. Elles ont l'air de se précipiter dans le lac. Il y a juste encore le passage pour une route. Et puis ensuite, il y a le lac. Et de l'autre côté, c'est la France. Et c'est aussi un très beau paysage. Parce que c'est en fait un endroit où on voit aussi bien la France que derrière les montagnes, on peut imaginer l'Italie.
Voilà. Alors vous avez publié La Suisse de travers aux éditions Héros Limite. Vous racontez votre périple à travers la Suisse, à pied, d'ouest en est et du nord au sud. 29 étapes avec de célèbres compagnons imaginaires. On est sur un muret en fait, on a une petite route assez étroite qui sillonne finalement, qui longe comme cela la côte du lac Léman avec ses vignes du Lavaux. Et on peut aller dans les vignes, on a le droit car le raisin n'est pas encore mûr. Et à partir de ce moment-là, voilà, on est entre deux plants de vignes là.
Oui, parce que les vignes sont à banc, c'est l'expression qu'on utilise ici, au moment où le raisin est mûr et on va le cueillir. Et donc, on n'a pas le droit à ce moment-là d'entrer dans la vigne jusqu'au moment où les bancs vont être levés. Et quand c'est levé, on peut venir grappiller.
On peut descendre, hein. On va vers le lac. On a l'impression vraiment, quand on descend, comme c'est très en pente, qu'on va plonger dans le lac, car devant nous, on a l'eau, en fait. On voit rien d'autre que l'eau, et on a ces plants de vignes, voilà, tout autour. Jean-Jacques Rousseau écrivait dans Les Confessions « J'aime à marcher à mon aise et m'arrêter quand il me plaît. La vie ambulante est celle qu'il me faut. Faire route à pied par un beau temps, dans un beau pays, sans être pressé et avoir pour terme de ma course un objet agréable, voilà de toutes les manières de vivre, celle qui est le plus à mon goût. »
Oui, je crois que Rousseau, c'est un des tout premiers qui s'est rendu compte qu'on philosophait et on pensait autrement quand on avançait, quand on marchait, parce que le cerveau s'aère d'une autre manière. Et moi, quand je suis seul, au bout de 3-4 heures, de temps en temps, je me dis « mais qu'est-ce que j'ai pensé pendant tout ce temps-là » Et c'est une vaste rêverie, mais en même temps, c'est le plaisir du randonneur. Et Rousseau a été un des premiers qui en a fait de la littérature, mais qui en a aussi analysé tout ce qui était intéressant, disant que pour lui, la pensée va avec la marche.
Ouais. Bon, faut faire attention parce que là, on est à pic. Voilà, on arrive au bout. On est complètement à pic. On a une voie ferrée qui est juste en dessous, hein, c'est ça? Oui, voilà. On a le chemin de fer et on a le port de plaisance de Vevey qui est juste devant. Avant d'être lieu balnéaire et touristique, le Léman était utilitaire. Il fait 73 km de long pour une largeur maximale de 14 km. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un lieu de tourisme, c'est un lieu de plaisir, de détente. Mais avant, on s'en servait pour passer d'un côté à l'autre quand on ne pouvait pas parce que c'était trop abrupt par exemple.
Voilà, il y a des endroits très abrupts donc où la montagne tombe littéralement dans le lac, c'est toujours encore un lieu de passage, c'est toujours encore l'endroit.
Alors voilà, il y a le train qui passe juste en dessous de nous, on est pile au-dessus, hein, à 2 mètres.
Ça va, il n'était pas trop lent.
Pas de sécurité, hein, on peut plonger là.
Voilà.
Daniel de Roulet, on remonte, du coup là c'est plus difficile parce que c'est vraiment en pente, hein, pente sévère. Non, moi ça va.
Ah bon, bah, moi aussi.
Ah bah alors ça va. Tout va bien alors. La marche, c'est les vacances pour vous, Daniel de Roulet?
Alors, il se trouve que j'ai un certain âge et que je suis en vacances toute l'année, mais c'est vrai que quand je travaillais dur pour gagner ma vie, eh bien je profitais toujours des vacances pour aller faire de très longues marches. Et je crois que c'était quelque chose qui m'a permis de faire des coupures entre une vie professionnelle et la vie dans laquelle vous avez envie d'écrire des livres ou des chroniques.
poursuit cette librairie francophone dans les vignes du Lavaux. On est arrivé proche d'une cascade.
Voilà.
Bon voilà, on est sur un point de vue avec une passerelle grillagée, donc on voit le vide sous nos pieds, c'est un peu impressionnant si vous avez le vertige. En tout cas, on est à Lavaux Vinorama, à 384 mètres d'altitude. Daniel Deroulet, on dit que les vignes du Lavaux profitent de trois soleils. En tout cas, c'est ce que vous dites dans votre livre. Le vrai, le soleil, là, qui éclabousse nos visages en ce moment même, celui reflété par le lac... et celui emmagasiné par les murs de pierre, car évidemment, pour maintenir la terre et les vignes, il y a des murs, ce qu'on appelle les restanques.
Oui, et c'est ce qui explique qu'on peut mettre des vins ici, alors que pendant très longtemps, on a pensé que c'était des endroits qui étaient trop éloignés du soleil de Provence. Mais on se rend compte maintenant que la réverbération du lac, c'est quelque chose qui amène encore du soleil en plus et qu'on finit par retrouver dans les verres de vin.
Merci Daniel Deroulet, merci infiniment. Votre livre La Suisse de travers est paru aux éditions Héros Limite.
Merci, bonne journée et à la prochaine.
À très bientôt. La suite des livres de 2020 conseillés et sélectionnés par nos libraires. Cap sur la Suisse et aussi la Belgique. On commence avec la Suisse, Dominique Bressoux.
Oui, moi, le livre que j'ai vraiment, qui m'a le plus marqué vraiment en 2020, c'était Après le monde d'Antoinette Richner. J'avais lu ce livre à sa publication, donc bien avant mars 2020, et il m'avait complètement retourné. Pour l'écriture magnifique et originale, pour le rythme qui vous fait marcher à la même allure que les personnages, et pour les questions qu'il posait. Est arrivé mars 2020 et on voit à présent les pieds d'argile du monstre qu'est devenue la consommation.
Ouais.
Et si aucune solution toute faite ne sort de cet ouvrage, c'est une superbe description des comportements en temps de crise et des espoirs, comme des désespoirs d'ailleurs, à garder pour l'avenir.
Je me souviens de ce roman qui était très troublant parce qu'on était effectivement avant la crise sanitaire. Elle était venue dans la librairie francophone en janvier 2020, Antoinette Richner, et elle décrivait finalement ce qu'on allait vivre quelques mois plus tard. C'est incroyable, ça s'appelle Après le monde et c'est aux éditions Buchet-Chastel. Merci Dominique. Déboire d'Amblon pour la Belgique. Quel est votre livre 2020?
Eh ben moi, mon livre 2020, Emmanuel, c'est un énorme coup de cœur, d'enthousiasme, un coup d'essentiel pour Les Impatientes de Djaili Amadou Amal.
Ah bah oui.
Oui, je sais, j'en ai déjà parlé, vous aussi, mais c'est mon Goncourt à moi.
Oui.
C'est aussi celui que les lycéens ont couronné. Preuve au passage que je suis très jeune d'esprit, mais bon, trêve de plaisanterie. C'est surtout parce que c'est un livre important, dont on ne parlera jamais assez et qui montre tout le pouvoir, toute la puissance de la littérature en parlant de mariage forcé dans le nord du Cameroun. Alors, ne nous arrêtons pas au sujet qui peut faire peur, d'abord parce que c'est essentiel qu'on sache tous, mais aussi parce que comme ça, vous allez découvrir une auteure que vous allez vouloir suivre.
Il faut absolument lire ce livre, Les Impatientes de Djaili Amadou Amal, sélectionnée pour le prix Goncourt. Elle était finaliste, elle a finalement eu le prix Goncourt des lycéens et c'est aux éditions Emmanuel Colas. Merci à vous, Déborah.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et voici un module sonore autour de Lucky Luke en deux parties. La première vous emmène sur la Tour Eiffel, la seconde sur le plateau TV de la librairie francophone. Il est question de l'album Un Cowboy à Paris et du dernier paru Un Cowboy dans le coton.
And my Lucky Luke ways. They hung up their gun.
Voilà, la librairie francophone vous emmène sur la Tour Eiffel. On est au premier étage avec Jules et HD. Bonsoir HD.
Oui, bonsoir. Ben là, on peut dire qu'on a la ville lumière à nos pieds.
Oui, parce qu'on est de nuit. C'est pour ça que je vous dis bonsoir d'ailleurs.
C'est extraordinaire.
Et on a juste en face de nous le Trocadéro. Toute la ville de Paris, en fait, qui est face
la
à nous.
La lune qui nous fait l'honneur d'être pleine.
La lune rousse pleine.
Ah, ouais. Magnifique. On a vraiment beaucoup de chance ce soir.
On se croirait dans un album de Lucky Luke.
Alors, Jules, il est à fond. Bonsoir, Jules.
Bonsoir.
Comment ça va?
Eh ben, très bien.
Vous êtes en pleine forme.
Mais oui, parce qu'en fait, on est quand même assez enthousiaste. Déjà, parce que reprendre Lucky Luke en tant que scénariste pour moi, en tant que dessinateur pour HD, c'est toujours une espèce de plaisir et une excitation. C'est quelque chose de patrimonial. C'est des tirages pharaoniques. Mais aussi parce que là, on a inventé une histoire qui nous touchait particulièrement, parce que cette histoire du cow-boy qui vient à Paris, Elle n'avait pas été faite, il n'avait jamais quitté le continent américain. Et là, cette rencontre de trois icônes, c'est-à-dire la Statue de la Liberté d'un côté, Lucky Luke et Paris en 1880, qui est un personnage romanesque en soi, c'est merveilleux. Donc, on fait venir... Alors, il ne voyage pas tout seul, hein. Il voyage avec Jolly Jumper, qui est rebaptisé Jolly Jean-Pierre, évidemment, immédiatement par les Parisiens. Alors, il rencontre les garçons de café qui font la gueule, il trouve les embouteillages sur les grands boulevards. C'est Paris qu'on connaît encore aujourd'hui.
Les Parisiens ne sont pas du tout aimables avec Lucky Luke.
Non, non, on peut dire que là, on a la belle caricature de la francophonie dans toute l'Europe du monde, mais surtout de Paris. Mais bon, c'est vrai que là, nos cousins canadiens vont pouvoir dire vraiment maudits parisiens, mais on se venge bien, donc on leur rend justice. C'est vrai que les Parisiens... Moi, c'était plus facile pour moi, qui suis de la campagne,
Que
qui vit à Paris.
Dans le sud de la France.
Ah, oui, moi, sud-ouest, moi, je suis en Gascogne, donc j'ai beaucoup de chance de ce côté-là.
HD, le dessin, parlons-en, parce qu'il y a cette statue de la liberté que vous dessinez magnifiquement. Jules a raison, votre dessin est sublime. Vous êtes le digne, finalement, représentant de Lucky Luke aujourd'hui, le digne héritier de Maurice. Comment vous avez fait ?
Quand il s'agit de dessiner la statue de la liberté, l'écorché de statue de la liberté, parce qu'il y a une poursuite épique dans la statue de la liberté, il s'avère que toute la structure a été créée par Gustave Eiffel. Et donc, c'est le même système de poutrelles que la tour Eiffel, puisque finalement, ça a été un peu son galop d'essai. Faire une structure à la fois haute, oscillante et qui ne bougera pas complètement, mais qui permettra cette légère oscillation qui évite finalement qu'elle ne se brise ou suivant les assauts des éléments. Donc il a fallu que je retrouve les plans.
Eh oui.
Et là, on voit le savoir-faire finalement de cet ingénieur fou qui s'appelait Gustave Eiffel. Et moi qui ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde, ben, on retrouve des ponts Eiffel, que ça soit au Vietnam, que ça soit en Auvergne, que ça soit même dans le Nouveau Monde, il y a des ponts Eiffel partout. C'était quand même un ingénieur extraordinaire.
Et on reste dans cette tour Eiffel, on est au cœur de la tour Eiffel.
Magnifique, merci. Puis bonjour à tous nos amis de la francophonie. Émission que je suis régulièrement, parce que les dessinateurs BD sont très souvent branchés sur la radio.
Et je sais, ils nous écoutent beaucoup, on les salue au passage.
On l'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. S'en tirait plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke.
C'est le nouveau Lucky Luke, signé HD au dessin et Jules au scénario. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous.
Merci à vous.
J'ai été très étonné en lisant la présentation de l'album, parce qu'il est dit que le sujet de l'esclavage était abordé pour la première fois dans cet album-là. Le sujet n'a jamais été abordé par Maurice ?
Réellement, non. Pas vraiment.
Ah, ouais.
Non, parce que Maurice, pendant très longtemps, a surtout travaillé pour de la presse enfant.
Eh oui.
Et puis les lois sur la publication pour la jeunesse, c'était quand même assez strict. Donc on était plutôt là. Après, c'est vrai que Lucky Luke est surtout une bande dessinée humoristique. C'est un pastiche de western.
En tout cas, vous y allez. Hein, cette fois, vous y allez franchement sur le plan de l'information. Au-delà du rappel historique, vous imaginez qu'une admiratrice de Lucky Luke, décédée, lui cède en héritage sa plantation de coton en Louisiane. Il va vouloir redistribuer cet héritage aux fermiers noirs, mais tout le monde trouve ça louche. Les voisins racistes, bien sûr, mais aussi certains employés. C'est pas évident pour tout le monde.
Ben non, finalement, il est un peu iconoclaste. Hein. Bon, c'est pas pour rien que c'est Lucky Luke, hein. C'est quand même un personnage, un héros atypique. Ce qui était assez amusant, c'est que Jules avait envie de parler justement de l'esclavage. C'était un peu compliqué. On a trouvé, moi j'avais découvert un personnage extraordinaire qui est Bass Reeves, qui est
alors, premier... Alors voilà, un cow-boy noir.
Alors, c'est le premier marshal adjoint, il a une vie incroyable, ancien esclave qui finalement fuit, se réfugie dans des tribus indiennes, les Cherokees, puis les Séminoles, puis finalement se marie, a une plâtrée d'enfants, est repéré pour sa loyauté, sa droiture et son pistolet, et évidemment, il est nommé par un juge fédéral au titre de marshal adjoint, qui est quelque chose d'énorme. Et quand j'ai découvert ce personnage, ça a permis pour Jules et moi-même
même de faire ce joint. C'est-à-dire, finalement, on découvre que c'est quand même un peu le mentor de Lucky Luke. C'est un peu celui qui l'a formé.
C'est la vieille connaissance de Lucky Luke.
Voilà.
Il faut savoir que 25% des cow-boys étaient noirs aux États-Unis. Pourtant, les westerns d'Hollywood ont toujours masqué cette histoire en bâtissant la légende du cow-boy blond aux yeux bleus. Mais avec $1 environ de salaire par jour, ce métier difficile et dangereux recrutait aussi parmi les moins favorisés des Américains et parmi les oubliés de l'histoire, donc Bass Reeves, qui fut le premier marshal adjoint noir nommé à l'ouest du Mississippi en 1875, comme vous l'avez dit, issu d'une famille d'esclaves. Et il arrêta apparemment tout au long de sa carrière plus de 3000 hors-la-loi.
Oui, en effet, plus de 3000. Alors lui, vraiment, c'est un vrai Lucky Luke, hein. Il y a pas à dire. Et il est allé même jusqu'à, pour vous dire, arrêter son propre fils qui avait malheureusement fait un acte répréhensible. Et alors évidemment, il ne l'a pas abattu, loin de là. Mais c'était quelqu'un vraiment très 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 intègre. Et c'est une vraie légende de l'Ouest. Mais bon, Hollywood n'a été pendant très longtemps pas le miroir de la communauté noire.
Les albums de Lucky Luke sont à retrouver chez Lucky Comics. On termine cette émission avec la fameuse anecdote de Mathieu Colombe. Les libraires vous racontent leurs histoires personnelles vécues. Des histoires étonnantes. Mathieu Colombe à Aix-en-Provence, un jour il s'est passé quelque chose de particulier.
Effectivement, c'était il y a très longtemps, hein, c'était il y a une vingtaine d'années. À l'époque, on avait notre rayon langue au quatrième étage de la librairie, dans un endroit qu'on n'utilise plus, en tous les cas pas pour le public. Et mes collègues me disent... Ouais, il y a Sharon Stone dans le rayon langue au quatrième étage, faut que tu ailles la renseigner. Alors à l'époque, moi j'avais 20 ans, je me dis, ouais, enfin, vous avez surtout pas envie de vous frapper les quatre étages, donc j'y vais vite, me disant qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un conseil, quoi.
Ouais.
J'arrive dans le rayon, et là, c'est Sharon Stone. Et Sharon Stone, au pinacle hein, de sa célébrité, enfin, personne dans le monde connu ne savait pas qui était Sharon Stone,
ah oui.
Personne dans le monde connu ne pouvait ne pas la reconnaître, quoi. Et là, je me dis, en fait, que, bon, entre mes mains qui deviennent moites et mes genoux qui s'entrechoquent, je me dis que quand même, cette pauvre femme, elle a plus accès à l'anonymat.
Oui.
Et donc, je décide en fait de m'en occuper comme d'un client lambda. Donc, je l'aborde en français, elle me répond en anglais, donc on baragouine en anglais tous les deux.
Mm-hmm.
Je la renseigne, je lui file son bouquin, mais pendant tout le temps qu'on passe ensemble, en fait, je la traite comme une personne lambda,
oui.
Quoi.
Anonyme,
oui. Après tout, voilà, c'est une personne lambda, voilà. Et donc, en partant, j'ai eu le bonheur. Déjà, j'ai senti que vraiment, ça lui faisait excessivement plaisir, parce que ça faisait longtemps que ça lui était plus arrivé.
Mm.
Et en partant, j'ai quand même eu droit à un petit clin d'œil et un sourire en coin, ce qui m'a quand même fait me lever avec un énorme sourire pendant au moins un mois.
Voilà. Sharon Stone dans le rayon langue, c'est un peu ambigu, hein, Mathieu, mais c'est le rayon des livres étrangers, c'est ça?
Exactement, il y avait les méthodes de langue et forcément les livres étrangers.
Et oui, vous avez un jargon, hein. Chez les libraires, je préfère préciser.
Oui, désolé, dans le feu de l'action, je n'y ai pas pensé.
Bon, merci en tout cas pour cette histoire. Bonne année à vous une nouvelle fois et bonne année à Sharon Stone si elle nous écoute. Et je pense qu'elle écoute chaque semaine la librairie francophone. À bientôt. On termine avec une musique populaire quelque part dans le monde, dans un pays membre de l'OIF. Voici Tamer Hosni, numéro 1 en ce moment en Égypte. Te-aș pune pe primul loc, fără să exagerez. Cum te miști și cum arăți, nu te-aș dea în viața mea, nici pe Jennifer Lopez. Mâna la un miliard, ca tine greu de găsit, femeie de calitate. Cum e diamantul de 10 carate. Lângă tine zi de zi, toți banii mi-aș cheltui. Doar să sărut buzele, în vânt și mașinile. extrait du nouveau titre de Tamer Hosni, numéro 1 en ce moment en Égypte. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Clément Berman. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Sophie Grécoutchot et Jean-Marie Félix en Suisse. René Mikils avec Valérie Le Put en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre grand voyage francophone version 2021. Je vous souhaite donc le meilleur pour cette nouvelle année. À très bientôt, bon week-end, bonne semaine.